Chapitre 33. Veillée d'armes. Il régnait une atmosphère étrange dans la taverne, l'une des quatre que Keller avait réquisitionnée pour faire attendre les hommes sans éveiller l'attention. La plupart des hommes buvaient peu, parlaient peu. Certains racontaient parfois un souvenir, d'autres exprimaient des rêves, des regrets, des projets. On les écoutait avec attention, souvent avec émotion, mais sans vraiment leur répondre. Ce n'était pas une conversation, mais une veillée. On communiait dans la peur, l'excitation, l'incertitude, le doute. On chantait parfois des chants anciens d'Albâtre, et Keller était surpris de constater que certains d'entre eux magnifiaient la haute ville. Le sacrilège qu'ils s'apprêtaient à commettre les effrayait, puis le souvenir de leurs années de misère rallumait la braise dans leur cœur. Lorsqu'Aelenor entra dans la taverne, elle fit naître une tension perceptible, mais indéfinissable. Femme parmi les hommes, haute citoyenne de naissance parmi la plèbe, porteuse de vie lorsqu'ils serraient leurs armes porteuses de mort, femme de leur chef, les hommes la vénéraient comme un talisman destiné à leur porter chance, une déesse bienveillante mais étrangère. Ils ne s'adressaient que rarement à elle et se sentaient toujours troublés par sa présence. Aelenor échangea quelques mots avec Keller, puis elle prit place sur un tabouret haut, les mains posées sur son ventre, dont on percevait les trémulations sous l'étoffe tendue. Elle avait le visage lisse et pâle, dont la sérénité et la beauté attiraient le regard. Elle alluma sa pierre frontale, dont la douce lumière bleue se répandit autour d'elle comme un clair de lune. « Homme libre, ne doutez pas de votre force, car d'esclave, elle vous a transformé en guerrier. Cette force n'est pas en chacun de vous, mais en nous tous. Elle traverse Albâtre comme un courant profond. Elle façonne l'avenir et construira une cité de justice. Elle réduira en cendres la misère et le mépris. Ce soir, il n'y aura pas d'échec, car aucune frontière ne peut plus endiguer votre force. Il n'y aura pas de défaite, car aucun artifice de l'esprit ne peut rien contre votre foi. Ceux qui mourront, mourront libres et victorieux. La haute ville vous a meurtri, et votre désir de vengeance scintille au plus profond de cette nuit. Mais la vengeance est un gouffre qui tentera de vous aspirer et auquel vous devrez résister. Car vous ne partez pas pour détruire, mais pour construire, et nulle haine ne doit animer votre bras lorsque vous répandrez le sang de vos frères humains. Les démons que déchaîne la guerre sont nombreux, leur nom est légion. Ils se repaissent du sang et du carnage, du pillage, du viol et de la destruction. Ne les laissez pas lécher le sang sur vos mains et pénétrer dans vos entrailles. Je suis née en Hauteville et comme elle, j'ai été arrogante et orgueilleuse, bouffie de savoir et de pouvoir, belle et perverse. Regardez-moi aujourd'hui et vous verrez la cité de demain, car vous avez le pouvoir de la transformer sans la détruire, comme vous m'avez transformée. Il est des choses en Hauteville que vous ne devrez pas renier. On ne renie pas la connaissance et la grâce, mais l'oppression et l'injustice. C'est un soir de révolution et de noces, un mariage entre la justice que vous lui apportez et tout ce qu'elle peut vous offrir. Ne violez pas celle qui se rendra à vous, ne brisez pas la nuque qu'elle baissera, car sa mémoire est un puits aux merveilles où vous puiserez pour toujours. » Aelenor se tut, laissa sa pierre frontale s'éteindre progressivement. Elle savait que les hommes auraient oublié ses paroles dans moins d'une heure, mais qu'elles agiraient au cœur de la nuit, lorsque l'odeur du sang aurait chassé toute raison de leur esprit, comme un puissant garde-fou. Elle ressentait une sérénité bizarre. La mort de Ketel, l'imminence de l'attaque, celle de sa propre délivrance, semblait presque lointaine. Comme si le temps humain lui apparaissait vu de très haut, elle éprouvait la satisfaction profonde du devoir accompli. Elle se dirigea vers Keller, dont le visage fermé lui indiquait, sans qu'elle eût besoin de recourir à l'esprit, qu'il était entièrement tendu vers son but. Il lui avait proposé de rester avec elle, mais elle savait que sa place était parmi ses hommes et avait préféré lui en laisser la liberté. Elle le considéra un moment, lui sourit et vit le mal qu'il avait à lui rendre son sourire. « Je n'arrive pas à imaginer l'après, » dit-il à mi-voix, comme si la vie s'arrêtait ce soir. « J'ai l'impression de te dire adieu. » Elle hocha la tête et se voulut rassurante. « Notre enfant aura besoin d'un père, » dit-elle doucement. « Reste vivant. » Elle l'étreignit soudain, sans retenue, avec violence, mais brièvement, et il ne vit pas sa pierre frontale s'allumer. Pourtant, il ressentit à travers cette étreinte silencieuse, furtive, toute la passion qu'elle éprouvait pour lui, tout son respect, toute sa confiance, tout l'espoir qu'elle mettait en lui, et s'en sentit renforcé et grandi. Mais il n'eut pas le temps de lui exprimer quoi que ce soit, car elle avait déjà tourné les talons. Il la regarda s'éloigner, conscient du regard des hommes sur lui et sur elle, conscient du lien qui le reliait à elle. Serait-elle seulement en sécurité cette nuit? À contre-cœur, il s'efforça de détourner ses pensées de leur enfant à naître, des dangers qu'elle courait peut-être seule, avec les assassins qui rôdaient. Mais ce n'était pas l'heure de penser à sa nuit à elle, la première qu'elle ne partageait pas avec lui. Il était l'heure de penser à sa nuit, à lui, à leur nuit à eux, rectifia-t-il en parcourant l'assemblée du regard. Le courage de ces hommes subissait les assauts de ces heures creuses d'attente et de silence. Keller inspira profondément et se glissa parmi eux. « Je commence à trouver le temps long, » remarqua-t-il d'une voix forte. Des rires et des assentiments fusèrent autour de lui. « Mon fils naîtra peut-être cette nuit, » continua-t-il. « Sera-t-il un haut citoyen ?»« Non !» crièrent les hommes. « Sera-t-il un bas citoyen ?»« Non !» crièrent-ils encore. « Alors il sera libre !»« Libre !» répétèrent en chœur les hommes, dont toute la tension se libérait soudain dans l'amour de leur chef. Keller riait avec eux, dans une euphorie paradoxale, qui, malgré la peur et la colère, n'était pas feinte. Leur communion les portait plus loin qu'eux-mêmes, et un instant, ils ne furent qu'un. Notre stratagème a marché, soldats. Les guildes se disputent à propos de la grève, et nul ne soupçonne le raz-de-marée qui va déferler cette nuit. Les hommes lancèrent une nouvelle acclamation, puis, d'un accord tacite, se turent. Nous allons boire notre dernière chope, soldats, notre dernière chope d'esclaves. Keller fit un discret signe à l'aubergiste qui entreprit de servir la bière. Tous levèrent leur chope et la burent d'un trait, comme un seul homme. « Et maintenant, soldats, nous allons rendre la justice à Albâtre. »« Pour Albâtre !» criaient les hommes. Et Keller se sentit ivre, sans savoir si sa griserie provenait de la bière, de la peur ou des cris des hommes qui le soulevaient de terre. Une heure plus tard, les unités étaient en place, ombres parmi les ombres, retenant leur souffle sous le ciel nocturne. L'unité chargée de la construction du pont flottant, puis de la protection de l'arrière, était bien entraînée. Il leur incombait de commencer, de procéder au lever du rideau, mais leur tâche avait été répétée maintes fois, balisée et supervisée par Keller et Kettel, et ils se montrèrent rapides et efficaces. On avait choisi un emplacement juste derrière un coude du canal. Aussi, lorsque la patrouille des gardes pourpres fut assez loin, ils s'attelèrent à la tâche sans délai. Malgré un léger contretemps, grâce à une diversion de trois femmes qui firent semblant d'être saoules en amont, le pont était entièrement installé au second passage des gardes. L'escouade de Keller avait traversé la première, chargée de tendre l'embuscade à la patrouille et d'éviter un ébruitement trop rapide. Les éclaireurs et l'escouade de Fly, qui devaient prendre la guilde du pouvoir, étaient passés aussi et se préparaient à marcher sur le centre de la ville, aux marges des unités combattantes. Ces deux dernières étaient encore en train de traverser lorsque le temps parut s'accélérer. Les gardes pourpres arrivèrent, et le silence de la nuit paisible fut soudain empli de vacarme, l'immobilité des vieilles pierres investie de mouvements précipités. Les gardes pourpres les virent, de plus loin qu'ils l'avaient espéré, mais ils commencèrent par essayer de les contraindre avant de donner l'alarme, et Keller se félicita de cette arrogance qui jouerait peut-être en leur faveur. Toutes leurs pierres frontales s'allumèrent d'un coup, et d'une voix de verbe impérieuse et glaciale, ils donnèrent l'ordre de lâcher les armes et de se rendre. Keller s'était préparé à cet instant, il s'y était préparé frénétiquement, et dès qu'il vit les pierres frontales s'allumer, il essaya de couvrir la voix de ses ennemis par la sienne. « Ne les écoutez pas, chargez !» Il ne pouvait pas se permettre d'attendre, car tout se jouait en un très bref instant, et il amorça lui-même la charge, sans savoir si ses hommes le suivraient. Il y eut quelques secondes de doute, tant chez les gardes pourpres, qui avaient du mal à évaluer la situation à l'aune de ce qu'ils avaient toujours appris sur les bas citoyens, que chez les soldats, pour certains fortement impressionnés, qui ne savaient plus eux-mêmes de quoi ils étaient capables. La charge de Keller profita de ce doute, et il se rua sur le premier garde d'une manière si insolite et si brutale qu'il le tua sur le coup, et ce premier sang versé sembla réveiller tout le monde de sa transe. Les gardes pourpres donnèrent l'alarme et se mirent en formation de combat avec une précision mécanique. Les hommes qui suivaient Keller, indifférents à ceux de leur rang qui, hébétés, venaient de lâcher leurs armes, se mirent à pousser des cris de bataille et redoublèrent d'énergie. Bien qu'il fût au milieu d'une mêlée serrée, où ses rudiments de ce temps lui sauvèrent la vie à plusieurs reprises en quelques minutes, il songea que la partie pouvait être gagnée. Il n'avait pas le temps de regarder en arrière pour voir ceux qui avaient été contraints. Il devait s'occuper de ceux qui l'avaient suivi et qui attendaient ses ordres. « Au centre-ville » hurla-t-il à l'intention des autres unités. Un déplacement à la faveur du combat lui donna un bref aperçu de la situation. Les autres escouades hésitaient à avancer, tandis que le combat de sa propre unité n'était pas achevé, et cette perte de temps était vaine. « En avant » hurla-t-il à nouveau, et cette fois il fut obéi. Les deux autres escouades combattantes avancèrent vers le centre-ville, en hurlant comme des démons, tandis que, plus silencieux, les éclaireurs et l'unité de Fly les suivaient. À chaque poche de résistance, une escouade resterait, et les autres avanceraient, les éclaireurs en premier, immédiatement suivis par l'unité qui devait prendre la guilde du pouvoir. Keller s'attarda un peu trop à regarder la progression de ses troupes, et il prit le temps encore de hurler « Faites-leur peur !» lorsqu'un garde pourpre l'entailla douloureusement à l'avant-bras. La douleur aiguillonna sa rage, et il tua deux gardes encore, en quelques secondes. Lorsque la patrouille fut décimée, Keller reprit son souffle et estima la situation. Sur la vingtaine d'hommes qu'il commandait, seulement 5 avaient lâché leurs armes. C'était une victoire incroyable. 3 étaient tombés sous les coups des gardes pourpres, et il ne fallait pas s'attarder. Resserrez les rangs! Unité chargée de l'arrière, faites retraverser le canal aux hommes qui ont été contraints. Tâchez de trouver à Eleanor pour qu'elle arrange ça. Dans 5 minutes, pas une minute de plus, faites avancer les femmes et commencez le lâcher de papillons. Unité combattante, faites-moi un tel vacarme en avançant que mes seigneurs aillent se terrer au fond de leur palais. Nous essuierons toutes les attaques sur le chemin principal, ne vous égarez pas dans les rues adjacentes. Ne cherchez pas à doubler les éclaireurs et restez vigilants face aux verbes. En avant! Ils avancèrent au pas de course, tonitruants, indifférents aux splendeurs de la haute ville qu'ils découvraient pour la première fois. Keller eut une vision fugitive de Zoroastre, suant sous le phare, prostré derrière une lourde porte fermée à double tour, et hurla à l'unisson de ses hommes. Chapitre 34. Mise au monde. Aelenor sentait maintenant la fatigue accumulée alourdir chacun de ses membres, essouffler sa respiration, et les contractions utérines qu'elle ressentait depuis quelques heures lui paraissaient plus régulières. Lorsqu'elle tendait son esprit vers son enfant, elle ressentait une ambivalence, comme si son désir de naître le disputait au désir de rester encore en elle. Lorsqu'elle apaisait son corps par l'esprit, cela durait à peine quelques minutes, quelque chose de plus fort était en train de se jouer en elle qu'elle ne pouvait endiguer indéfiniment. Elle ne savait pas où aller. Quelques semaines plus tôt, elle aurait sans doute accompagné et encadré les femmes pour le lâcher des papillons, mais y elle avait renoncé depuis quelques jours, consciente que son état physique représenterait un embarras pour tout le monde et une inquiétude inutile dans l'esprit de Keller. Elle lui avait promis de rester à l'arrière, mais elle avait du mal à jauger ses forces. Devait-elle s'aliter et se préparer à la délivrance, ou pouvait-elle encore se rendre utile aux environs du pont flottant ? Elle était dehors et venait de s'occuper des soldats qui n'avaient pas résisté à la contrainte. Ils formaient une file désorientée et pitoyable, mais quelques mots de sa voix de verbe avaient suffi à en faire repartir une bonne moitié. Maintenant, elle n'avait plus rien à faire. Son regard se perdait vers l'unité qui protégeait l'arrière. Les femmes venaient de passer le pont, leur précieux chargement frétillant dans les volières, dans un grand silence. On apercevait parfois, derrière des murailles ou au-dessus des grands arbres, des lueurs d'incendie. On entendait une vague clameur qui aurait pu être celle d'une fête aussi bien que d'une guerre, et elle était reléguée là, partageant l'angoisse des hommes de la dernière unité, ainsi que leur frustration de ne pas prendre part au vrai combat qui se jouait plus loin et dont ils n'avaient aucun moyen de connaître le déroulement. Les autres parvenaient-ils à progresser? Beaucoup d'entre eux tombaient-ils sous les armes des gardes? Les hauts citoyens s'étaient-ils, comme le pensait Keller, massivement réfugiés chez eux, ou avaient-ils pris les armes? Si c'était le cas, bien sûr, leur poignée de révolutionnaires serait exécutée avant l'aube. « Comment vous sentez-vous, madame ?» C'était un jeune lieutenant, le petit Cardone, qui avait tardivement rejoint l'armée et que Keller avait refusé d'envoyer au front. Sa loyauté était touchante et Aelenor prit le temps de lui sourire avant de répondre. « S'il faut que je sois franche, Cardone, je me demande si je vais accoucher d'une minute à l'autre. J'ai peur et je ne sais pas ce que je dois faire. » Cardone rougit, intimidé. Maître Keller ne vous a-t-il pas donné de recommandations ? Si, il m'a recommandé de me coucher et d'attendre le matin. Cardone fit une moue ennuyée. Pourrais-tu obéir à un tel ordre cette nuit ? Demanda Eleanor. Non, madame, mais je n'attends pas un bébé, si vous permettez. Où pourrais-je me mettre pour ne gêner personne et rester au plus près des nouvelles qui arrivent ? Cardone fit un tour d'horizon de ses yeux vifs et désigna un porche assez vaste et assez propre à une 50aine de mètres d'eux. « Je vais vous faire porter une litière, madame, ainsi qu'une vieille, de l'eau chaude et du linge propre. » Aelenor souriait toujours. Ce porche n'était pas pire que sa chambre, après tout. et ce petit garçon monté en graine devait avoir vu sa mère accoucher un nombre considérable de fois. « Va pour la litière, l'eau chaude et le linge, mais je n'ai pas besoin de la vieille. » Cardone rougit. « Excusez-moi, madame, mais je n'ai jamais vu qu'une femme accoucherait toute seule. » Le sourire d'Eleanor se transforma en un rire léger. « Les dames de la haute ville ne s'abaisseraient jamais à accoucher en présence de quelqu'un, je t'assure. Fais apporter un paravent. Je vais attendre là-bas, car je suis un peu lasse. » Cardone la regarda inquiet lorsqu'il vit son sourire s'effacer brusquement, probablement sous l'assaut d'une souffrance qu'elle ne manifestait pourtant pas. « Si vous le permettez, je viendrai prendre de vos nouvelles régulièrement, madame, et je garderai la vieille sous la main au cas où vous en auriez besoin. »« Faites cela, » murmura-t-elle. « Merci, Cardone. » Elle marcha d'un pas lent vers le porche où elle s'assit péniblement, sa pierre frontale émettant une vive lumière tremblante. « Pourvu que les papillons restent assez loin, » songea-t-elle, « juste le temps pour moi d'utiliser l'esprit une dernière fois. » Sitôt qu'on lui eut apporté la litière et les affaires, elle s'installa. Elle voyait le bout du pont flottant, et les allées et venues des hommes désœuvrés de loin la rassuraient. Lentement, doucement, elle entonna le chant des naissances, dont la douce pulsation rythmait sa respiration. Sa pierre frontale brillait d'une lumière plus douce. L'esprit la soutenait dans la maîtrise de la douleur lorsque les contractions venaient, et la maintenait sereine lorsqu'elle refluait. Au fur et à mesure de la berceuse, c'était comme si le monde extérieur se refermait peu à peu, comme si le théâtre du monde s'était recentré là, dans son ventre, et que plus rien d'autre n'importait. Cela faisait déjà plus d'une heure que Joris, silencieux et patient comme l'araignée, étudiait à Eleanor. Rien ne lui avait échappé, ni du commencement du travail, ni de l'angoisse de sa sœur, ni de l'engourdissement volontaire dans lequel elle avait plongé son bébé et elle à travers la berceuse. Les rythmes cardiaques, qu'il percevait distinctement, même à cette distance, s'étaient progressivement ralentis, à l'unisson. Le moment était venu, et Joris n'eut même pas besoin de sortir de l'ombre. L'esprit d'Eleanor était à portée du sien, livré. Il fit volontairement une irruption brutale. Dans l'esprit d'Eleanor, ce fut une sensation de chute au bord de l'endormissement. Tout reflua sur elle en une fulgurance, l'imminence du danger, le sentiment de son impotence, l'acuité des douleurs utérines qui l'empêchaient de penser. Elle ressentit étrangement la panique pure du bébé qui s'était préparé à naître et qui, soudain, se rétractait. « Lève-toi et contourne le bâtiment, en silence. » Elle reconnaissait ce viol mental, mais il ne s'agissait pas de Sornard, elle en était presque sûre. Terrassée par la volonté imposée par cette voix, elle se vit se lever péniblement, mais aussi vite que son état le lui permettait. C'était comme si sa conscience et son corps avaient été déconnectés. Il ne lui restait que la douleur, mais l'autre volonté avait pris possession de sa liberté motrice. Elle tenta de résister mentalement, mais se heurta autant à sa propre faiblesse qu'à la force de son invisible ennemi. À l'intérieur de son corps qu'elle ne maîtrisait plus, le bébé s'agitait anormalement, mais les mains de sa mère à travers la fine paroi de la peau ne venaient pas le réconforter, et le sang maternel charriait la peur par des charges presque ininterrompues. « Calme-toi et attends, tu naîtras quand je te le dirai. » À Eleanor, horrifiée, entendait de très loin les rumeurs du combat et butait sur l'impossibilité de prévenir Keller. « Arrête de lutter !» imposa la voix, et à Eleanor sentit le désespoir comme une vague qui la noyait. Joris la conduisit à l'arrière du bâtiment, et seulement à cet instant, il se montra à elle. « Mon maître a de grands projets pour ton fils, » lui murmura-t-il en la saisissant par le bras. « Accepte ton destin. » À Eleanor étouffa un hoquet. L'étreinte mentale s'était légèrement desserrée, mais elle ne pouvait songer ni à crier, ni à s'enfuir. Elle suivait Joris, tant bien que mal, la main crispée sur son ventre, imaginant le visage de son bébé sous la peau tendue à se rompre. Le jeune Cardone s'aperçut presque aussitôt de son absence et se précipita vers elle. Joris ne le regarda même pas lorsqu'il le contraignit avec violence. « Tu diras à Keller qu'il ne reverra jamais ni sa femme ni son enfant. » À Eleanor, vit Cardone essayer de se dégager d'une force qui le tenait à distance et qui finit par le projeter à plusieurs mètres en arrière. Puis, elle sombra dans une sorte d'hébétude. La douleur, l'épuisement, la terreur la portaient sans cesse plus près de ses limites physiques, et par une sorte d'instinct animal, elle économisa ses dernières forces et s'arrêta de penser. Son cerveau recevait les images et les bruits sans les analyser vraiment, la durée même du trajet restait impondérable. Elle vit des marches qui s'enfonçaient, des murs suintants, d'autres en marbre noir. Puis, enfin, elle s'écroula. Elle eut la tentation de se laisser aller, à pleurer, à mourir, mais quelque chose en elle s'accrochait encore. Joris s'affairait à côté d'elle. Elle avait le sentiment que, du fond de son extrême faiblesse, elle avait recouvré un peu de liberté. Elle rassembla son esprit, le banda comme un arc, et attendit de croiser le regard de Joris. Il fallait une injonction très courte, l'essentiel. « Ne nous tue pas !» articula-t-elle de sa voix de verbe, et elle eut l'impression fugitive que Joris avait été surpris. « Arrête tes enfantillages !» prévint Joris sans même utiliser le verbe. « Tu nous as suffisamment fatigués avec tes enfantillages !»« Nais !» ordonna-t-il à l'intérieur d'elle, et le bébé docile s'engagea dans les gémissements de sa mère. « Déchire-la !» ajouta Joris, et le bébé accéléra son rythme, se frayant un chemin sanglant à travers la chair meurtrie de sa mère. Et tout, à partir de cet instant, alla très vite. À Eleanor s'arrêta de hurler et lança un regard sur l'être qui n'avait fait qu'un avec elle et qui lui était arraché. Elle ne le vit qu'à travers un linge noir dont Joris l'avait enrobé. Elle n'entendit que son premier cri qui la transperça. « L'hémorragie va se charger de toi puisque je ne peux pas le faire. Laisse la vie s'écouler hors de toi !» ajouta-t-il de sa voix de verbe. Puis, l'instant suivant, il avait disparu. À Eleanor n'avait pas la force d'ouvrir les yeux. Ses cuisses serrées n'endiguaient pas le flot de sang tiède qui s'écoulait d'elle. Elle avait froid. Le silence. Le sang chaud, mouillé sur le marbre froid. Le silence. Il suffisait d'attendre maintenant. Le silence et le froid l'auraient bientôt ensevelie. Elle attendit, ouverte au silence. Et puis sa conscience réagit à quelque chose. Un bruit. Non, plus faible qu'un bruit. Une pulsation. Une deuxième pulsation. Une nouvelle contraction la sortit de sa torpeur, l'arracha au froid, au marbre, au silence. Elle sanglotait et poussait en même temps, les dents serrées sur sa propre main pour s'empêcher de crier. Elle sentait l'angoisse du bébé oublié, qui fuyait un corps mourant et qu'elle aidait du mieux qu'elle pouvait à se séparer d'elle. Elle coupa le cordon avec ses dents et entoura le bébé de ses bras et de ses jambes pour le protéger du froid. Elle n'eut pas la force d'essuyer son corps, ni même de regarder son visage, seulement celle de mettre sa tête contre son sein. Alors seulement, elle perdit connaissance.